Bonsoir, nous sommes ravis au collège ce soir d'accueillir Jean-Christophe Bailly qui nous fait l'amitié de sa présence. Jean-Christophe Bailly est écrivain, il est poète, dramaturge, il est critique, il est philosophe de formation, quoi qu'il en dise, un peu quand même, il a soutenu une thèse de philosophie, j'ai cru comprendre, et il enseigne actuellement...
C'est fini.
Et ben en tout cas, il a enseigné à l'École nationale supérieure de la nature et du paysage de Blois, où il a dirigé la publication notamment des cahiers de l'École de Blois à partir de 2003. Il est l'auteur d'un très grand nombre d'œuvres qui sont à la fois des essais, je vais en citer certains, qui ont un rapport proche ou lointain avec le sujet de ce soir, de récits, d'écrits sur l'art, de préfaces et de très nombreuses préfaces à des catalogues d'art. Il est aussi dramaturge, il a écrit un certain nombre de textes de théâtre. Il est très difficile de résumer le travail de Jean-Christophe Bailly pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais sans doute nombreux d'entre nous l'avons lu pour être présents ce soir. On peut dire que sans doute ce qui caractérise sa pensée, c'est notamment la manière qu'il a eu de s'accompagner, si j'ose dire, d'un certain nombre de réflexions à partir notamment du romantisme allemand ou autour du romantisme allemand et notamment de la pensée de Novalis dans l'encyclopédie, mais pas seulement. Il y a avec le romantisme allemand, me semble-t-il, un compagnonnage dont il sera peut-être un peu question ce soir et qui fait notamment qu'un nom peut être cité ici puisque le nom de Philippe Lacoulabarthe notamment, mais de Jean-Luc Nancy aussi, les auteurs de l'absolu littéraire mérite peut-être d'être cité dans le dans ce compagnonnage du romantisme allemand. Alors certains essais, de très nombreux essais, j'ai même pas réussi à les compter. Parfois on dit de très nombreux essais, on sait qu'il y en a quelques-uns et pas plus. Là ça n'est pas une vue de l'esprit. De très nombreux essais, j'en citerai peut-être quelques-uns qui ont un rapport, me semble-t-il, avec ce dont il va être question ce soir, puisque Jean-Christophe Bailly accepte de parler de, je cite, « la naissance de la phrase ». Alors, « Le paradis du sens », c'est Bourgeois en 89, « La fin de l'hymne » en 91, le texte « Le propre du langage, voyage au pays des noms communs » au Seuil en 97, « Le pays des animaux » MOTS chez Bayard en 2004, ou encore un texte plus récent, « L'élargissement du poème » chez Bourgeois dans la collection Détroit de 2015. Au titre des récits, ceux qui sont, c'est simplement une sélection, peut-être elle est injustifiée, et vous en auriez d'autres à proposer. Je citerai « Description d'Olonne » qui a paru chez Bourgois en 92 et qui a obtenu le prix France Culture, ou encore « Tuiles détachées » paru au Mercure de France en 2004 et qui a été réédité, si j'ai bien compris, et augmenté en 2018. Et un texte, je pense, qui est assez important pour l'œuvre, pour la compréhension de l'œuvre. De très nombreux écrits sur l'art, de très nombreuses préfaces, des textes de théâtre, une dizaine de textes de théâtre. C'est véritablement une œuvre, et c'est pour votre œuvre, Jean-Christophe Bailly, que nous sommes permis de vous convier ce soir à donner cette conférence dont nous nous réjouissons d'avance.
Alors, merci. Merci. Donc, collège de philosophie, j'ai un peu fréquenté il y a pas mal d'années, et toujours quand, même si c'est vrai que j'ai passé un doctorat de philosophie il n'y a pas si longtemps, j'avais une cinquantaine d'années, pour des raisons un peu techniques, liées à l'école à laquelle j'enseignais, on m'avait demandé de passer un doctorat, c'était mieux pour moi et surtout pour l'école. Et en fait, je me suis toujours senti quand même un petit peu, non pas en intrus, il ne faut pas exagérer, parce que j'avais beaucoup d'amis philosophes, mais pas tout à fait 100% à l'aise dans le milieu philosophique, pour des tas de raisons, et voilà, donc à nouveau comme ça, mais je crois justement que c'est en venant de la littérature à la philosophie, bon, justement, ça entraîne une certaine manière de dire les choses qui décale un petit peu, disons, le paysage conceptuel, et peut-être c'est aussi ça qui peut avoir un intérêt. Voilà, donc là j'ai choisi de parler du langage, et aussi de revenir, ça me permet de revenir à des choses qui m'ont beaucoup intéressé il y a très longtemps, c'est-à-dire l'utilisation d'un certain matériel venant de l'anthropologie, et que souvent j'ai un peu souvent délaissé, mais là, ça sera le point de départ. Voilà. Donc, ce texte s'appelle « Naissance de la phrase ». C'est un peu présomptueux, mais vous verrez que j'essaye d'assumer cette, justement cette présomption, enfin, dans ce qu'elle a d'ouvert. Donc, dans le livre très beau, et sans doute assez oublié aujourd'hui, qu'elle a consacré au prophétisme Tupi-Guarani, Hélène Clastres, qui accompagna dans les années 60 du siècle dernier son mari, Pierre Clastres, dans ce qui restait de la forêt paraguayenne. Juste Pierre Clastres, pour les gens de ma génération, ça a été très très important de le lire, hein. Non seulement ses rapports d'ethnologue, mais aussi, comme la chronique des Indiens Guayaki, mais aussi les leçons théoriques qu'il avait tirées de ses séjours chez les Indiens, notamment la société contre l'État, etc., etc. Et Hélène Clastres était sa femme, donc. Qui accompagnait donc Hélène Clastres, Pierre Clastres, dans ce qui restait de la forêt paraguayenne, reste, inutile de le dire, réduit aujourd'hui à une peau de chagrin. Elle montre dans ce livre à quel point la conception que les Indiens qui vivaient là-bas se faisaient du langage, était pour eux fondatrice. Un rite, qu'elle raconte et restitue, lié à la naissance, c'est-à-dire là-bas, à l'apparition d'un nouvel être dans un univers déjà saturé de sens, et dont on n'est pas sûr qu'il accepte le nouveau venu. Ce rite qu'elle raconte révèle clairement cette importance du langage. Lors de la phase finale de la gestation, quelques jours avant la naissance de l'enfant, il est recommandé au père de s'abstenir de toute activité, s'abstenir de faire des choses multiples, telle est l'expression employée par les Indiens, et donc de concentrer sa pensée tout entière sur l'enfant à naître. La forme que prend cette concentration est celle d'un chemin qu'il faut tracer dans le monde afin d'ouvrir la voie à la parole de l'enfant à venir. Symbolique, ce chemin correspond en même temps à un acte qui s'inscrit, s'écrit dans le réel. En effet, le père doit, et je cite désormais directement le texte d'Hélène Clastres, le père doit, lorsqu'il marche sur les chemins, fermer ceux qui bifurquent et jeter des ponts sur les rivières qu'il traverse. Il faut que la parole de l'enfant n'ait qu'un seul chemin. La venue au monde d'un petit homme est celle d'un être parlant. Et pour que cette parole ne s'égare pas et soit reçue, il faut lui ouvrir un chemin qui soit sa propre ouverture. Le chemin ainsi tracé approprie le nouveau-né à sa parole et inscrit celle-ci ou sa possibilité dans le monde qui la reçoit. De la sorte, l'être à venir est identifié à une phrase et l'existence de tout être humain considéré comme un phrasé. La naissance, sous certaines conditions, libère ce phrasé qui est vécu comme la signature inquiète de l'existence à venir. Pour être incarné, libéré, la phrase qu'est chaque être humain ou que chaque être humain contient en lui doit donc d'abord être tracée virtuellement. Il s'agit, si l'on veut, d'une sorte de baptême, mais ce qui est donné alors à l'enfant, ce n'est pas tant le nom qu'il va porter que l'accès au langage lui-même, que ce qui lui permettra de se porter dans le monde. À l'intérieur d'un tout autre contexte, le nôtre, où il faut tenir compte notamment de la surcharge qu'impose l'apparition de l'écriture, il nous est pourtant possible, je crois, d'entendre comme une proximité cette identification de la parole à la naissance et du phrasé à un chemin. Ce chemin, par définition, est singulier. C'est, ce ne peut être que celui d'un seul être. Mais il ne peut exister qu'en venant s'inscrire, se dire, dans une langue. c'est-à-dire dans une forme de relation au monde mise au point par la communauté où il apparaît. La langue, celle des Tupi-Guarani, mais n'importe quelle autre aussi bien, et toutes les langues au même titre, et également les unes par rapport aux autres, la langue est vécue comme le don grâce auquel peut s'ouvrir le chemin. Et ici, la question de l'origine de la langue vient, pour ainsi dire, recouvrir celle de la naissance du phrasé. La naissance de la phrase, ou plus exactement encore sa venue, n'est en effet possible que si elle s'inscrit dans le déjà-là d'une langue donnée, et pour chaque être humain apparaissant, ce déjà-là de la langue est ce qui encadre et conditionne son accès au langage. Que la langue, et toute langue en l'occurrence, soit la forme performée du langage et sa forme sans fin mais toujours diversement actualisée, ce n'est certes pas là une découverte. Mais si nous superposons la question de l'origine des langues, et donc la question mythique, interdite presque, de l'apparition du langage, à celle de la venue en nous de la phrase, autrement dit, si nous rapportons nos problèmes, disons, d'expression, à la question de la possibilité expressive qu'est le langage lui-même, nous entrons dans une sorte de tourmente spéculative qu'il semblerait peut-être prudent de contourner, mais qu'il devient pourtant inévitable ou enviable de traverser dès lors que l'on considère l'existence même du langage comme une énigme, dès lors que l'on revient à cette puissance énigmatique, c'est-à-dire aussi dès que nous nous penchons tout bonnement sur le pourquoi et le comment de sa venue. Cette interrogation, n'importe quel segment de parole ou d'écriture, advenant dans une langue ou dans une situation de langage donnée, quelle que soit cette langue, quelle que soit cette situation, permet de la réveiller. Il est même fascinant de penser qu'en parlant ou en écrivant, nous nous déplaçons à toute vitesse, comme sur une crête qui franchirait un abîme. La plupart du temps, et c'est le caractère enjoué du langage, nous ne le voyons pas, cet abîme. Mais pourtant, nous le côtoyons sans cesse, en cherchant nos mots, tout comme nous le voyons béer sous l'apprentissage des langues. Qu'il s'agisse de celui de l'enfant qui apprend à avancer dans sa langue maternelle ou de celui que nous rencontrons en nous mettant, nous, à fréquenter d'autres langues. Cet abîme n'est pas à proprement parler celui de l'absence de langage, puisque nous naissons dans son existence et que, obscurément, nous savons qu'il existe, qu'il nous précède et nous entoure. Le soleil du langage en nous ne se couche jamais, a pu dire Fernand de Ligny dans une lettre où il oppose d'ailleurs cette clarté continue et peut-être, surtout de son point de vue, aveuglante, à une autre, celle, je le cite, de la voix lactée qui traverse la nuit de l'autiste. Il faudrait développer tout ça, mais ce n'est pas mon sujet. Ce qui veut dire que même si cet accompagnement constant du langage en nous est en effet continu, il est sans fin exposé via quantité de pannes au spectre de sa disparition, dont l'autisme, en l'occurrence, représente une forme extrême. Il y a autour des mots comme une sorte de contour vide que nous ressentons parfaitement quand nous ne les trouvons pas, et dont peut-être, pour ce qui est de l'écriture, la fameuse et angoissante et comique feuille blanche serait la figure. Ce que nous apercevons dans ces moments resserrés, si nous nous laissons entraîner par eux, c'est l'antériorité absolue où le langage a dû puiser pour être et pour devenir. C'est le monde muet auquel il renvoie et d'où il provient. Insituable dans le temps, mais rappelé à chaque fois que le silence suspend le phrasé, cette provenance n'a ni la consistance d'un monde que nous pourrions atteindre, ni l'obscurité d'une origine déclarée. Mais elle étend sous le langage l'équivalent d'une sorte de nappe phréatique qui est aussi le songe où il puise. Au monde où le langage a paru, chaque mot de chaque langue renvoie, chaque mot se souvient du sens auquel il a voulu répondre. Le langage est le frayage humain. C'est le répond que les hommes ont donné à l'énigme de l'exister et à l'excès qu'est l'existence. Cette énigme et cet excès sont la condition. Ils inclinent au silence, mais on les traverse en parlant. Le répond, le langage, n'est pas à proprement parler une réponse. C'est un écho, c'est une suite d'échos. Ce que l'homme entend dans l'écho qu'il déclenche quand il parle, ce n'est pas seulement sa voix, c'est d'abord le fait même qu'il y ait du sens. Le langage humain n'invente pas le sens, il doit se contenter de l'éveiller. Et c'est comme tel, en tant qu'il est cet écho ou ce renvoi, ce répond, que justement il se décale par rapport à ce que l'on attend de lui. Quelque chose en lui, sans fin, défaille et se dérobe. Ce qui est en jeu avec cette perte, c'est à la fois tout ce qui se ramasse dans ce qu'il est convenu d'appeler l'arbitraire du signe, à quoi il faut toujours revenir, et c'est aussi tout ce qui déferle avec le sentiment, si commun et si récurrent, que l'on éprouve lorsqu'on ne parvient pas à dire ce que l'on a à dire. Si ces deux inquiétudes se recouvrent, elles obéissent pourtant à des régimes différents. Celle qui est liée à l'arbitraire du signe qui se déclare, comme on le sait chez les enfants, aussitôt qu'ils découvrent les mots, concerne avant tout le lexique. Tandis que celle qui a trait au caractère maladroit ou incertain de notre parole touche à la totalité du langage et par conséquent au phrasé lui-même. L'incertitude quant aux termes que l'on utilise vient colorer le doute qui enraye le phrasé, mais elle se déploie d'abord tout entière à l'intérieur de l'énigme qu'est pour nous l'origine de la désignation. L'état paradisiaque du langage, dont a parlé Walter Benjamin, et qui désigne une quasi-innocence de la désignation, et à travers elle une transparence intégrale entre les mots et les choses, est bien entendu, et annoncé comme tel par Benjamin, une fiction. La langue adamique qui l'induit, mais la langue adamique, expression inventée par Benjamin, mais la langue adamique qui l'induit a beau n'avoir pas d'autre existence que celle d'une sorte d'espéranto spéculatif, elle fonctionne pourtant comme une asymptote jamais rejointe ou comme un horizon perdu. À cet égard, elle ressemble à cette langue parlée en cela que seule, que l'on pourrait imaginer en renversant la célèbre formule de Mallarmé sur les langues imparfaites en cela que plusieurs. Les langues imparfaites en cela que plusieurs, c'est une expression de Mallarmé, avec laquelle je suis en profond désaccord par ailleurs, mais ça, c'est une discussion qui dure depuis des années, si on peut dire, et on peut imaginer que, par-delà cette phrase-là, Mallarmé a imaginer justement une langue qui eût été parfaite en cela que seule. Mais c'est par l'évocation d'une dénomination transparente et heureuse, grâce à laquelle les noms acquerraient d'emblée un pouvoir intégral de présentation, que nous pouvons nous figurer plus facilement le manque à gagner qui travaille au cœur du langage. Si phraser, parler, écrire, c'est chercher ces mots, alors il faudrait que ceux-ci puissent outiller cette recherche en ne présentant eux-mêmes aucun défaut de fabrication. C'est dans cet écart que s'était engouffrée la fantaisie étymologique du cratyl, et c'est de lui que dérive le doute platonicien quant à la véridicité des noms. Créés par les fabricants de noms, les onomaturgoi, les noms, selon Socrate, on s'en souvient, ne peuvent en tant que tels aucunement échapper à leur défaut initial, qui est justement d'être, au même titre que les images, des sortes d'imitations. Mais à cette interrogation qui porte sur l'outillage ou les pièces détachées du langage, le langage lui-même, en son fond, échappe. Et c'est du côté de sa nécessité que sans doute il convient de se déporter pour aboutir non à une généalogie, mais à la raison qui la fonde. En allant non pas en direction de la fabrique des noms et de ses avatars, mais en direction de l'espace de pensée qui a rendu cette fabrication nécessaire et possible. Espace que nous ne pouvons nous représenter, mais dont chacun des mots que nous employons, issus d'un très long voyage, est tributaire. alors qu'il n'est aucunement possible de restituer le mouvement par lequel les noms et les verbes, les mots, un jour, ici ou là, ici et là, sont venus, nous savons que ceux que nous employons sont les lointains descendants des premiers vocables que les hommes utilisèrent. Et cela, quels qu'aient pu être les cheminements qui les ont conduits de ce que Herder, en son traité sur l'origine des langues, appelle le panthéon sonore des origines, à nos usages actuels. À cette préoccupation généalogique, les observations forcément lacunaires de la paléolinguistique, comme on l'appelle, et les recherches des neurosciences sur le dépliement progressif des capacités cognitives des êtres humains n'apportent au fond que de furtives lueurs. Et il n'y a en vérité pas grand-chose à changer au constat que pouvait faire Wilhelm von Humboldt à l'orée du XIXe siècle. Je le cite, « Séparé par un intervalle immense de l'origine des langues, ne pouvant guère nous transplanter dans les idées et les sensations de ceux qui les premiers proférèrent ces sons qui par milliers et mille altérations sont venus jusqu'à nous, vivant très probablement sous un ciel, sur un sol, au milieu d'un monde d'objets entièrement différents, nous ne pouvons que rarement retracer avec exactitude les rapports délicats dont l'observation leur a fait allier certains sons à de certains objets. » Fin de citation. Par-delà cette impossibilité, ce qu'elle a quand même d'obsédant, assister à la naissance de la parole, pouvoir dérouler, voir se dérouler le film de l'apparition des mots ou des phrases serait en effet vertigineux. Par-delà, tout de même, nous pouvons laisser se rouvrir en nous le scénario de notre venue au langage, non seulement avec ce que nous en dit son éternel retour dans la bouche des enfants, mais aussi et surtout avec ce qui est en jeu aussitôt qu'un mot nous résiste ou semble nous entraîner dans une direction qui n'est pas celle que nous avons désirée. En effet, ce qui se révèle alors, c'est la puissance et l'épaisseur d'une volonté de dire qui n'a pas encore trouvé ses mots, ou qui, les trouvant, éprouve qu'ils ne sont pas les bons. Quelle est la nature de cette volonté et d'où tire-t-elle l'énergie qui lui permet d'évaluer l'efficacité de sa performance? À l'origine de tout acte de parole, de toute effectuation du sens, il y a une impulsion. On veut dire quelque chose, ou quelque chose en nous et par nous cherche à se dire. De ce caractère intentionnel, ou tout au moins intentionné, de la parole, le parler populaire témoigne constamment. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ? Et sans doute l'une des phrases les plus prononcées aujourd'hui. Et elle retentit justement comme l'écho immédiat d'un écart perçu entre ce qui est effectivement dit et ce qui a été dit ou aurait voulu l'être. Peut-être ne s'agit-il que de la version française d'un « you know what I mean » quasi universel, mais ce qui est à retenir, c'est que tout en faisant par avance et non sans paresse l'économie d'une recherche d'adéquation plus avancée, ces formules témoignent de la conscience d'un flottement et sont en phase avec ce qu'il peut y avoir de plus astreignant dans la construction des phrases, en littérature par exemple. Entre l'acceptation de l'approximation la plus vague et la tentative d'une résonance intégrale, immense est l'étendue des potentialités de la parole. Mais partout, sur tous les énoncés, des plus lâches aux plus tendus, flotte le spectre d'une sorte de précédence du sens à lui-même. Alors que le sens vient et se confond à sa propre venue, il se vit de l'intérieur comme en défaut par rapport à sa propre impulsion. Entre le dit, le proprement dit et l'avoir voulu dire, se produisent à chaque instant et à toute vitesse de constants décalages et même de petits effondrements. De telle sorte que sans forcément lui donner un contenu substantiel, nous devons imaginer quelque chose d'aussi rapide et fugace qu'un pur départ de sens qui ne serait pas séparable de son actualisation, mais qui la précéderait malgré tout. Même si l'approche faite ici de cet allumage ou de ce déclenchement est à coup sûr bien différente de la sienne, je pense que c'est à quelque chose de cet ordre qu'Émile Benveniste a pensé lorsqu'il a utilisé, à un moment donné, la notion d'intenter. Cet intenter, Benveniste le définit comme le sens conçu globalement, qui se réalise en se divisant en ces unités singulières que sont les mots. L'intenter ne désigne aucune instance séparée du langage, mais quelque chose qui est déjà en direction du langage, qui engage le langage, et qui, comme tel, est au principe de tout phrasé. Les unités qui composent le message ne sont pas conçues séparément, et la phrase ne consiste pas en une addition de signes. Un mouvement la traverse, et l'intenter est ce qui ouvre ce mouvement, ce qui le rend possible. Donc, il n'y a pas d'un côté le lexique, le vertige de la désignation, et de l'autre, la syntaxe et le luxe de l'articulation. Tout vient. Mais il faut à cette venue un commencement, une impulsion. La phrase vient, mais il lui a fallu venir. Pour caractériser ce mouvement, ce tourment qui porte la phrase, Pierre Alféri, dans un précieux livre paru début des années 90, intitulé « Chercher une phrase », Pierre Alféri proposait quant à lui le terme d'élan. Chaque phrase, dit-il, constitue l'articulation interne de l'élan. Chaque phrase, dit-il, projette son origine dans l'élan de la profération. Oui, entre l'élan et l'intenté, comme entre eux et ce qu'en provenance de Hölderlin nous pouvons appeler le surgit, il y a une sorte d'équivalence. Mais dans tous les cas, le mystère est bien que dès le commencement, la phrase, une phrase, se forme et vienne, fusant et se retournant sur elle-même, accomplissant son destin de phrase, parfois si bref et souvent lié de façon libre et probante à la légèreté d'un vouloir dire dénué d'effusion. C'est le cas notamment dans les situations de langage où la vie quotidienne et les formes d'échange qu'elle génère sont à l'œuvre. Ces formes, sans doute, peuvent sembler rudimentaires, mais elles ont aussi cette force d'être dans un rapport quasi direct à l'intenté. Du simple bonjour et du simple merci et des interjections à quantité de phrases brefs et récurrents, il faudrait multiplier les exemples et rêver à partir d'eux à une sorte de volière sonore où le sens circulerait avec la rapidité d'une balle ou d'un volant. Plus loin encore, on peut évoquer les situations de langage dans lesquelles l'intenté est si transparent qu'il n'a même pas besoin de produire une signification clairement et distinctement énoncée. Là, on approche tout un registre où il faudrait ouvrir le chapitre du rapport avec la phrase musicale, en tout cas de la berceuse au cri, de la berceuse au cri. Nous avons ici toute une gamme de pré-énoncés directement reliés à la puissance spontanée des affects. Mais parler, bien sûr, ce n'est ni bercer, ni crier. Avec ce qui s'évade du cri, comme avec ce qu'entraîne la berceuse, nous entrons dans cet espace intermédiaire où un sens peut passer sans en passer par la forme articulée. Cet espace peut précéder le discours ou lui venir en renfort, mais il s'en distingue en cela qu'il reste extérieur au champ sémantique proprement dit, qui est celui d'une élongation de la course qui va de l'intenté à l'effet produit. Avec le discours, parlé ou écrit, cet effet cesse d'être immédiat et se diffracte à l'infini en fonction du chevauchement des connotations apportées par chaque segment de discours. Le discours est le nom de ce ralentissement ou de cette organisation à la fois linéaire et concertante que l'articulation effectue. Je me souviens de la fascination qui a été la mienne quand, il y a bien longtemps, j'ai réalisé, à partir notamment de J.M. Schleff et de sa notion de chaîne, que la structure fondamentale du phrasé était une sorte de croisement incessant et qu'entre son avancée horizontale ou segmentale et l'apparition à chacun de ses pas d'une unité de sens réinvestie, il y avait une sorte d'entrelacement continu. Or, ce que réalise cet entrelacement, dans la mesure même où il est fait pour donner consistance à un sens, à du sens, ce n'est ni une information, ni un encodage. C'est une interprétation. Le langage, tel qu'il se forme en phrases par des phrases, traduit et retraduit sans fin le monde, via ses traducteurs que sont les parlants. Aucune traduction n'est, ne peut être exacte. Aucun traducteur n'est, ne peut être parfait. Mais ce régime du non-parfait, de l'imparfait, co-extensif à l'existence même des vocables et aux formes de leurs relations, est celui d'une correction et d'un affinement perpétuel. Plus une langue est utilisée, travaillée, investie, reçue, envoyée, plus elle se croise avec elle-même ou avec d'autres, et plus elle s'étonne et se renouvelle. Tout ce que nous voyons ou entrevoyons, sentons ou devinons, tout ce que nous pensons tombe sous le sens. Mais cette tombée n'est pas directe. Elle est étrange et ralentie, complexe et enchevêtrée. L'essence de la langue... L'essence de la langue, c'est à nouveau Wilhelm von Humboldt qui parle. L'essence de la langue consiste à couler la matière phénoménale du monde dans la forme de la pensée. C'est épatant, Wilhelm von Humboldt, ça j'ai beaucoup relu. J'ai pas du tout daté, comme on dit. Ce que nous devons imaginer à partir de là, ce n'est certes pas une sorte d'industrie de transformation dont les productions seraient automatiques. C'est au contraire une recherche éperdue, un corps à corps avec cette matière phénoménale du monde dont parle Humboldt. Aucune représentation héroïque de ce corps à corps n'est nécessaire. Et il n'est pas question, à travers l'évocation de cette activité, d'ériger à nouveau à l'homme un piédestal d'où il se tiendrait au-dessus des autres créatures. Elles aussi, selon leur mode, essayent de se débrouiller avec cette matière phénoménale que nous avons en partage avec elles. Mais la forme qu'a pris le frayage humain, autrement dit le contact que nous avons avec cette matière, c'est celle qu'instruit le langage. Le langage est la modulation infinie de notre réponse, et en chaque langue, il répond de l'effort qui a été fait par la communauté qui le parle ou la parle, non seulement pour se parler à elle-même, mais pour aussi qualifier sa façon d'habiter le monde. On peut momentanément envisager les mots que chaque langue a inventés comme des points fichés par elle dans la matière phénoménale du monde, comme une sorte d'acupuncture magique. Mais le langage, justement, ne commence qu'avec les phrases. Et les phrases, nous pouvons les comparer à ces dessins faits de points qui, lorsqu'on les relit, forment des figures, dessins qui abondaient autrefois dans la presse écrite et les magazines pour enfants. À cette différence près que dans le cas du phrasé, aucun dessin ne préexiste. Les points que l'on rejoint et la trace qui s'invente, on ne les suit pas, elle vient, ils viennent. Là où tous les mots étaient comme en dormance, un intenté qui surgit les éveille, ou du moins en éveille quelques-uns, et la langue n'est rien d'autre en nous que cette possibilité de recommencement sans fin reconduite. Dès lors qu'une phrase s'invente, elle rejoue le scénario pourtant à jamais inconnu de la naissance du langage. Comme la langue a la voix, les mots dictent. Comme la langue a la voix, les mots dictent. Avec cette merveilleuse formule trouvée par Maurice Sève dans sa Délie, et qui est comme la frappe même de ce qu'elle énonce, nous nous trouvons face à la version lisse du scénario du phrasé. Mais ce qui est en jeu, c'est moins, je crois, le schème d'une éventuelle limpidité que la possibilité tout autre d'un pur dicté. Cette possibilité, même si l'impeccable formulation de Maurice Sève, comme la langue à la voix les mots dictent, la donne comme effective, on sait bien et on vérifie à chaque instant qu'elle n'est que l'horizon que le phrasé poursuit. Et ce rêve d'un dict, ce qui serait l'émission sans perte d'une écoute intégrale, ou la réception dans la bouche, ou la voix du chant interne de la langue, on le retrouve un peu partout, aussitôt du moins qu'est interrogée la capacité de la langue à saisir ou à retentir. cet objectif de résonance, de transparence, c'est lui qui est à l'œuvre, non dans l'idée d'une rectitude dérivée de l'orthothèse, rectitude platonicienne, mais dans tout ce qui a trait à l'idée que le phrasé, dans sa capacité la plus grande, davantage qu'une invention, serait tout entier d'abord une écoute. Que ce qui n'est pas encore tracé puisse pourtant être suivi, poursuivi, et soit malgré tout indicté, tel est le paradoxe. Lorsque Rousseau, dans sa quatrième promenade des rêveries, parle du dictamen de sa conscience, le chemin direct qu'il invoque n'est pas sans rapport avec ce qui se joue dans le dicté. Mais je me souviens ici surtout que c'est par ce mot de dictamen, latin, que Maurice de Gandillac avait tenté de rendre le terme de gedichtete, poétisé, poématisé, accompli par le poème, c'est relativement difficile à traduire, édicté par le poème, entendu par le poème. C'est par ce mot de dictamen que Maurice de Gandillac avait tenté de rendre le terme de gedichtete, utilisé par Benjamin dans son vertigineux essai de jeunesse sur deux poèmes de Hölderlin. Et ce souvenir, c'est aussi pour moi celui de Philippe Lacoula-Barthes faisant dans les entretiens de l'île Saint-Pierre, c'est un film où il parle, l'éloge de ce qu'il appelle cette invention de Gandillac. Pour lui, Lacoula-Barthes en effet, à qui je dois-je le souligner, tout ce que j'ai m'efforce de dire ici est dédié, toute l'affaire était là, dans ce nœud problématique entre l'impensable et le dicté. Et dans l'hypothèse que le dit ou le dicte, supposé, rêvé, virtuel, réel, puisse s'engendrer en devenant diction, et ce qu'il dit, appelait véridiction. Phrase étant justement le nom et le titre de son livre, le titre dans lequel se recueille la tentative qui fut la sienne de donner à cette consistance du dicté et de la diction une autorité autre que celle du discours. Et ce n'est évidemment pas un hasard si cet enjeu d'une autorité décelée, errante, sans autorité, encourt la forme ou tout au moins l'apparence du poème. Et d'un poème qui aurait su aussi échapper à sa propre auto-séduction, c'est-à-dire la forme de tout ce qui tire le langage vers son seuil originaire, qui est celui de son commencement. Soit cette ère d'incertitude où le nommé et le phrasé entament ce pas de deux qui nous constitue. Ère à laquelle, pour finir, même si c'est peu recommandé, je voudrais revenir. Et je dis bien revenir puisque c'est d'elle au fond que nous étions partis, en suivant le chemin tracé dans la forêt par le père de l'enfant Tupi Guarani du livre d'Hélène Clastre. Souvenons-nous, ce qu'il fallait, c'était garantir une issue, aménager à la parole de l'enfant à venir un chemin dans le monde. Inquiétude qui peut s'entendre aussi comme le fruit du désir que la langue elle-même soit reçue et recevable, et qu'il y ait entre elle et le monde où elle va s'introduire une sorte de contrat. Nous ne sommes donc pas loin ici de la notion de dette telle qu'elle a régi les comportements dans le monde des chasseurs-cueilleurs, et je pense que ce que l'on peut circonscrire de l'invention du langage a dû se déployer à l'intérieur d'une telle ère comportementale comme un apprentissage prudent et comme un tâtonnement imprégné de magie. Quelle a pu être la force et la durée de cet apprentissage? A-t-il été le même à peu près partout où des langues ont surgi? On ne peut pas le savoir, et je laisse de surcroît de côté les spéculations savantes sur la possibilité équivoque pour moi d'une langue unique qui serait à l'origine des autres. Mais si nous avions la possibilité de remonter l'un après l'autre les paliers de dérivation d'où procèdent les langues actuellement parlées, nous ne pourrions pas en retrouver les sources avec certitude. Que les langues aient pris l'allure de brusques surgissements, qu'elles relèvent plutôt d'une imprégnation lente et progressive, qui conserverait d'ailleurs en elles la mémoire ou la fiction de quelque chose de surgi ou de dicté, nous ne pourrions l'établir qu'en connaissance de cause, or il se trouve justement que cette connaissance nous est et nous sera retirée pour toujours. Par contre, si éloigné qu'il puisse être d'une autre, nous pouvons tout de même, je crois, nous faire une idée du paysage de pensée où les langues sont apparues.
Mais pour cela, un premier saut est nécessaire. Pour avoir idée de la venue du langage, ou de la venue au langage, nous devons en effet imaginer ce que peut être un monde innommé, un monde vierge de tout nom, et accepter que ce monde dénué de nom, dénué de verbe, ait justement fonctionné comme le seuil même où s'est ouvert le langage. Ce qui revient à dire aussi qu'au lieu de tenir, dans un réflexe heideggerien malheureusement assez automatique, au lieu de tenir ce monde d'avant le langage comme un monde privé de monde, nous devons pleinement l'accepter comme monde. Monde auquel le langage d'ailleurs n'a rien pris ni rien ajouté. Monde qui se maintient sous le langage et dont chaque langue en chacun de ses mots se souvient. Entre le souvenir du monde, ou plutôt l'écho de monde qu'est le langage, et le souvenir infiniment lointain de l'apparition du langage, se produit une sorte d'interférence. En parlant, en écrivant, nous oublions tout cela. Mais chaque phrase est pourtant le sillage lointain d'une ouverture qui eut lieu un jour et qui fut le contraire d'une fanfare. Il me semble que le rite du chemin dans la forêt produit une image valable de cette ouverture, en venant de surcroît souligner qu'elle ressembla à une précaution. Mais il y a une autre image qui me vient et que je crois qu'on peut tenter. Elle est liée au fond des âges et à ces signes lointains qui nous en sont parvenus. Je pense, bien sûr, aux peintures et aux gravures paléolithiques d'Altamira, de Lascaux, de Chauvet, de tant d'autres. Mon intention, je le précise, ne consiste pas du tout à rapporter l'apparition du langage à celle de ces peintures ou de ces gravures, de le faire en termes d'époque ou de datation. Aucune datation n'est nécessaire ici, et autant il serait stupide de décréter que c'est aux Gravettiens plutôt qu'aux Magdaléniens ou à l'Aurignacien que quelque chose comme une langue s'est formée, autant il semble possible d'envisager le climat, peut-être pas d'une apparition, mais tout au moins d'une installation ou d'un durcissement d'une prise. Dans un monde immense, immensément ouvert, très peu peuplé, mais traversé par quantité d'animaux fabuleux, livré nu à la parution continue des phénomènes, les hommes de ces temps produisirent soudain ce qui nous apparaît comme une accalmie. Sans fin, patiemment ou peut-être parfois avec impatience, ils apprenaient, ils regardaient, ils sondaient. Et il est probable que dans la langue que probablement ils parlaient déjà, et il est probable que la langue que probablement ils parlaient déjà était un résultat de ces explorations et de ces sondages. Mais alors que se produit de leur frottement à la matière du monde, produit qui les enchantait peut-être et perdu pour nous, voilà qu'un beau jour ils se mirent à tracer des signes, d'autres signes, inventant cette autre forme d'écho qu'est l'image, et telle est l'accalmie. C'est sous deux formes principales que cet écho vint s'écrire et donc demeura, et toujours en fonction d'une opération directe. D'une part, et c'est pour nous évidemment le plus spectaculaire, par des images au sens strict, celles, on le sait la plupart du temps, d'animaux. D'autre part, via des empreintes, et pas n'importe lesquelles, mais celles de mains humaines, mains dites positives ou négatives, déposées à même les parois des cavernes. Or ces gestes, poser la paume des mains à même la paroi interne du monde, souffler sur elle à l'aide d'une pipette une poudre colorée, ou encore y tracer de mémoire à la lueur d'un flambeau le contour d'une bête, par-delà toutes les raisons qu'il y eut de les faire, on peut légitimement les considérer, ces gestes, comme la reprise et peut-être l'amplification de ce que le langage avait ouvert, lui, dans l'espace sonore. Ce qui se présente en effet sur les parois, ce sont d'une part des figures et d'autre part des empreintes. Or, c'est justement entre la figure et l'empreinte, entre le contour et la résonance, que vient se configurer l'intervention du nom et que résonne à partir des noms la possibilité de la phrase. Il y a dans le geste même du dessin une forme de désignation que nous pouvons facilement relier à celle qui tient au langage. Préservée et magnifiquement sauvée de l'effacement, la peinture paléolithique mime, en quelque sorte, sous nos yeux, l'apparition du langage, ce qui est phrasé avec les chevaux, les lions, les taureaux, les cervidés, comme avec les mains positives ou négatives, les systèmes de points, et même les rares apparitions schématiques de silhouettes humaines. Ce sont des récits qui pour l'essentiel nous échappent. Mais c'est avant tout la possibilité même qu'il y ait eu récit ou chant. Et si nous voyons à juste titre dans ces peintures les échos encore vivants d'une exploration à la fois anxieuse et émerveillée, alors il est bon de nous souvenir que les langues dont nous disposons ne sont les outils de nos phrases que parce qu'elles relèvent elles aussi, quand bien même distendues sur des millénaires et des millénaires, d'un semblable travail. Mais ce qui est sans doute le plus étonnant, le plus extraordinaire, c'est que cet immense feuilletage de passé qui est sous chaque mot soit sans poids. Loin de fonctionner comme une simple tradition, le langage file ou surfe sur la crête d'une mémoire qui l'éveille en passant. Et la phrase, selon son dict, est l'agent de cet éveil. Ou du moins, et c'est une nuance de taille, elle devrait l'être, elle est susceptible de l'être. Ce qui entre ici en jeu, mais ce serait là le thème d'un tout autre exposé, ce sont les réquisites d'une telle action, fût-elle restreinte, et tout ce qui, via le champ qu'ils ouvrent, ces réquisites, confère à la parole, et singulièrement à l'écriture, les aspects d'une tâche infinie. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, merci. Je ne sais pas si les micros fonctionnent. Merci infiniment. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Sans micro ? Alors, ça fonctionne.
Ouais, il marche, lui, parler.
Ah, voilà, je crois que j'ai réussi. Merci infiniment pour cette... pour cet exposé et aussi pour cette traversée de la question de la naissance de la phrase que vous entendez dans un sens au fond très littéral, si j'ose dire.
Ah oui.
Mais et voilà, il va sûrement y avoir des questions. Moi, j'ai quelques questions et
oui,
je simplement pour engager peut-être un peu la discussion. D'abord, je me disais en vous écoutant que finalement, quand on s'engage dans cette question de l'origine des langues et vous vous engagez dans vous proposer votre version de cette origine, et vous avez cité de nombreux auteurs qui avant vous ont, de Herder à Rousseau en passant par Humboldt, Benjamin, Heidegger ont proposé eux aussi des hypothèses de l'origine ou des hypothèses sur l'origine. En fait, je m'aperçois que vous avez commencé par l'anthropologie, mais je me demande si on n'en passe pas toujours par une fictionnalisation. Et qui est une fictionnalisation un peu paradoxale, parce qu'à la fois on se débat avec la possibilité d'une remontée à l'originaire, donc une manière de trouver la nécessité, disons, de la naissance, si je comprends le mouvement qui était le vôtre. Et en même temps, on élabore ce que vous avez appelé un scénario, enfin peut-être c'était pas dans ce sens-là exactement, mais je voudrais peut-être reprendre ce mot au vol, un scénario qui a très vite des aspects de fiction. Mmh. Il me semble qu'il y a dans votre remontée à l'originaire, notamment à la fin, quand vous évoquez les peintures rupestres et à la fois les empreintes de doigts et les dessins d'animaux, quelque chose, voilà, peut-être c'est ma question, entre l'anthropologie et une certaine fictionnalisation, est-ce que, au fond, quelle est la nature ou quelle est la valeur d'un scénario sur l'origine des langues ?
En tout cas, il est assumé comme dans un cas comme le mien, il est assumé comme fiction, ce qui n'est pas toujours le cas des paléolinguistes, par exemple. Il y a quand même un affreux positivisme qui traîne et qui continue de traîner, renforcé en plus par... les outillages numériques, et au motif qu'on va découvrir une racine d'un mot extrêmement ancienne, et puis voir comment elle est répartie, et c'est plus facile de le faire avec les outils qu'on a aujourd'hui. Au motif qu'on a trouvé ça, on va avoir peut-être évidemment un segment, hein, mais en même temps, c'est, c'est une résonance, ça résonne dans le vide, on ne peut pas reconstituer à aucun moment le scénario. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est dans ces approches, souvent, disons, scientifiques, et en effet qu'ils le sont, c'est que très souvent, la question finit par devenir autonome et se détache de l'interrogation sur le langage, c'est-à-dire à quoi ça sert, pourquoi c'est venu, à quoi ça sert qu'il y ait des mots, à quoi ça sert le langage, hein. Et au revoir madame. Ah non, oui.
Bravo en musique. Enfin, merci de vos paroles, mais bravo oui. En musique.
Allez-y, c'est bien. Oui, choisissez, c'est bien. C'est bien. Bravo en musique, d'accord. Et c'est l'autre conférence ? Une autre conférence ?
Non, pas ici.
Ah bon. Mettre de la musique sur un beau, c'est débile, voilà. J'ai dit mon opinion. Voilà. Elle m'a coupé mon sifflet. Et
c'est
voyez,
Rimbaud,
non, c'est marrant. C'est marrant. Non, c'est pas Rimbaud. Pour moi, elle ne représente pas du tout Rimbaud. Non, c'est marrant.
Mais
ça illustre la façon dont cette dame m'interrompt, illustre bien une chose que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que on a beau parler comme ça, on se promène, puis paf, on tombe. De quoi est fait ce trou dans lequel on tombe ? Et c'est justement par rapport à ce questionnement-là que la réponse sur l'origine du langage devient intéressante. Parce que ce trou tel qu'il vient d'exister là, de façon comique, c'est celui dans lequel on habite d'une certaine manière. C'est qu'est-ce que je veux dire ? Et ce qu'est-ce que je veux dire de chaque instant de parole, évidemment, il est, si on va chez le boulanger, on demande du pain, ça c'est clair, c'est très simple, mais c'est souvent, bon, comme la situation de langage est souvent, mais nous met dans la position d'avoir quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus élaboré à dire. Et on a du mal. Or, cette situation dans laquelle on se retrouve, on peut dire qu'au niveau de l'aventure de la phrase unique et personnelle que l'on est, on recoue à nouveau le grand scénario de l'origine du langage, parce que c'est là-dedans qu'il a fallu, la matière phénoménale du monde, il dit bien, très très bien les choses, Humboldt, pas Alexandre, Wilhelm, son frère, et ça veut dire... ce par rapport à quoi on doit sans fin et toujours réagir. Donc évidemment, à ce moment-là, le scénario est toujours fictionnel, mais que l'on se représente un homme de l'époque de Chauvet, il y a 30 000 ans, qui est en train de peindre. Donc, en effet, moi je dis, c'est difficile d'imaginer qu'il n'ait pas déjà eu une langue. Et que, disons, qu'en retrouvant des discussions quasi grecques, on pourrait en effet penser que, ce que j'essaye de dire là, que l'image n'a pu venir que comme une deuxième salve humaine de signes, la première ayant été celle des mots, de la parole. Évidemment que c'est qu'on invente une fiction. Mais disons, on peut dévêtir cette fiction de ses aspects les plus, disons, hollywoodiens, cinématographiques, etc., et en faire une fiction qui intéresse la question même de la parole, je crois. Voilà. Et parce que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas fictif, c'est le langage lui-même.
Non, mais fiction au sens de fictionnalisation,
pas de
faux.
Oui, mais voilà.
Moi, j'aurais, et ensuite je vais passer la parole, je suis sûre qu'il y a plein de questions, mais il y a une autre question qui m'est venue en vous écoutant, c'est celle du statut de la littérature par rapport à la naissance de la phrase, parce que finalement, on sent que vous effleurez la question du dictamen littéraire, mais dans votre présentation, c'est comme si vous n'aviez pas peut-être délibérément ménagé un statut pour ce que serait...
C'est volontaire. À un moment, je fais un éloge du parler quotidien. Je parle de la volière, là, etc. Et après, il ne s'agit pas de faire des poids et mesures ou des hiérarchies.
C'est pas ça.
Disons, en termes de... S'il y a une chose que je trouve particulièrement aussi insupportable que l'homme et l'être qui parle, etc., une chose qui est presque, qui est tout à fait aussi insupportable, qui en provient d'ailleurs, c'est l'idée aussi qu'il y aurait d'un côté la littérature qui serait un travail de raffinement continu sur le langage, puis en plus il y aurait les malheureux qui utilisent la langue quotidienne comme ça. Moi, il me semble que la façon dont la langue quotidienne ressource, réinvente, travaille continuellement cette espèce de volière, ça reste la base, ça reste le vrai. Plus, c'est pas seulement le dictionnaire, c'est un dictionnaire en action permanent, etc. Et c'est avec ça qu'on vit, et c'est avec ça qu'un langage est vivant. Après le travail de la littérature, il est différent, mais il est différent, et il est, disons, un travail, justement, à mon avis, de réappropriation de la langue. Ça, c'est pas simplement, au lieu de simplement en jouir, d'une certaine manière, il s'agit de la maintenir. C'est un travail de maintenance de la langue, d'une certaine façon, un travail constant d'entretien les écrivains, normalement, ça devrait, comme un service des pièces détachées, hein, on nettoie, on les entretient, les mots, et on essaye de... Et l'idée, c'est qu'à l'issue d'un usage littéraire qui a été fait d'un mot, le mot serait plus lui-même qu'avant. Par exemple, c'est le contraire de ce que font les hommes politiques. Chaque fois qu'ils utilisent un mot, ils s'abîment. Et tous, d'ailleurs, y compris, à commencer par... C'est-à-dire, des mots ne veulent absolument plus rien dire, ils sont juste des éléments d'un jeu ou mondain où la quantité de sens est extrêmement faible. Extrêmement faible. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus jamais question de transformer la matière phénoménale du monde en pensée. C'est pas du tout ça. Comme même la matière phénoménale du monde serait telle demande sociale, etc. Il ne s'agit plus de ça. C'est-à-dire, c'est pour ça aussi que d'ailleurs ces mêmes hommes politiques sont absolument délivrés de l'obligation du sens quand ils peuvent parler le seul langage qui est le leur, c'est celui des chiffres, faire l'addition, ça coûte combien, etc. Là, il n'y a plus de sens, il y a juste... Et cette évacuation, elle est permanente. Mais pour revenir à la littérature, très souvent, ça serait à la fin, je le dis, ça serait un autre sujet. Si j'avais abordé parce que je termine en disant je sais plus quoi la phrase est l'agent de cet éveil de la mémoire du langage à chaque instant. Oui. Et, ouais, ça pourrait, ça devrait, mais bien souvent ça n'est pas le cas. Et bien souvent, moi je vous cache pas que les trois quarts de la littérature qui se publie.
Non mais moi je parle de la littérature. Y compris un peu ancienne, c'est-à-dire de ce qu'on appelle l'institution de la littérature.
Ah, l'invention de la littérature.
Invention, ou bien, oui, la littérature comme institution, pour utiliser un mot un peu dérivien, c'est-à-dire, la littérature, vous avez dit Hölderlin, on a entendu le nom de Rimbaud, qui nous a fait un peu dévier de notre cours. Je veux dire que l'écriture littéraire, pas forcément ce qui se publie aujourd'hui et qu'on aime ou pas, mais... Est-ce que ma question c'était, est-ce que c'est un cas particulier de la phrase ?
Et pour moi, j'ai du mal avec la littérature en tant que telle en général. D'ailleurs, les deux noms que vous avez cités, c'est deux poètes.
Oui, mais je pourrais dire Balzac.
Oui, mais justement, vous l'avez pas dit.
D'une
part, vous l'avez pas dit, et d'autre part, et là, pareil, il n'y a pas de hiérarchie. Mais à mon avis, lorsqu'on se met en position d'écrire quelque chose comme un poème, on est dans un certain rapport au langage. C'est une situation de langage, ce qu'on appelle une situation de langage, comme là je suis dans la situation de langage de proférer devant un public. Et la situation de langage dans laquelle on est quand on est un narrateur, comme Balzac par exemple, elle est complètement différente. Et à chaque fois, ces situations de langage engagent des tunnels de forme, disons. Et qui sont très différents les uns des autres. Et pareil, si on écrit une pièce de théâtre, ça va être encore autre chose. Si on écrit un traité, ça va être encore autre chose. Et bien entendu, à l'intérieur de chaque genre, pour appeler les choses, il y a une infinité de possibilités, une infinité de possibilités de dissolution, de contamination par les autres genres, etc. C'est complètement ouvert. Bien entendu, il ne s'agit pas de refaire une espèce de répartition académique. Mais je crois que c'est quand même très important de séparer les choses en genre. Et pour moi, disons, quand même, le genre qui est le plus démuni devant le langage, c'est quand même le poème. Je ne dis pas la poésie. Le poème, c'est-à-dire celui qui le prend en plein, il le prend en plein, comme ça. Et parce que justement, il n'y a pas le désir de... L'intenté du poème, ça serait le plus difficile à caractériser. Et on pourrait dire, ça ferait une jolie formule, l'intenté du poème, c'est le langage lui-même. Voilà. Et ça, je pense que c'est seulement le poème qui est comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est mieux Rimbaud que Balzac, etc. Mais il y a le travail sur le langage le plus intégral et le plus intègre, c'est quand même le travail du poème. Ça, j'en suis persuadé. Oui.
Merci.
Et la littérature, elle vient, pour moi, elle vient après, comme ça, elle est magnifiquement d'ailleurs là, entre ce que le poème essaierait de faire et ce qui existe du langage au fond dans les usages quotidiens qui sont liés à la communication, à tout ça. Le poème et la communication, c'est vraiment pas son problème. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Ah non, il y en a. Méfiez-vous.
En écoutant ce que vous disiez là, juste pour conclure, c'est l'intenté des phrases de Flaubert, mais pas le langage aussi. C'est autant que d'une certaine façon dans un poème. Mais voilà, on peut reposer la question autrement. Peut-être une façon de reposer la question autrement, c'est, vous avez cité une des phrases de Lacoulaparte, une des idées énoncées dans son ouvrage de phrases. En parlant de l'autorité autre que celle du discours. Donc c'est comme si la phrase était l'autre du discours. Et c'est en cela qu'elle relève de la catégorie du poème.
Pour Philippe, c'était comme ça, oui.
Oui. Et dans ce cas-là, le poème n'est pas pensé comme un genre, il est pensé autrement qu'un genre. Donc quelle est la différence entre penser le poème comme genre et comme autre que le genre?
Et d'une part, au moment, là je l'ai peu développé dans le texte, ou pas assez d'ailleurs, mais parce qu'en plus j'ai eu l'occasion d'en parler à d'autres moments à propos de Philippe Lacoulaparte, mais lui, à aucun moment il ne fait l'éloge de la forme du genre poème, à aucun moment. C'est-à-dire que cet autre du discours qu'il essaye d'identifier, il l'appelle phrase. Hein. Et cette phrase, elle est pour lui à la fois quelque chose, qui relève du dicté, toute cette chose sur le dictamen, etc. Et en même temps, quelque chose qui est à faire, à écrire, d'une certaine manière. Mais quand on lit attentivement phrase, les moments finalement où il rencontre, où il approche de la véridiction, sont des moments de... En fait, c'est tout ce qui est attrait à l'interruption, au moment où le langage s'arrête pour se reprendre. C'est ce qu'il appelle la césure. Et là, je ne vais pas développer, mais c'est sans césure, le langage est particulièrement celui du poème, en l'occurrence. Sans césure, il n'y a pas de... Il n'y a pas ça, mais au lieu que le silence soit juste une fonction, disons, rythmique, quasi respiratoire, qui permet au langage d'exister, puisque entre chaque mot de ce que je dis là, on ne l'entend pas, mais il y a un silence. Chaque mot, vous l'entendez comme séparé des autres, en même temps que relié, mais ce silence, il existe. Mais en même temps, ce silence, c'est pas un contenant, non seulement une puissance rythmique, mais il a aussi un sens. Puisqu'il est le retenti de l'intenté, enfin je sais pas, il faudrait trouver des tas de formulations, et pareil, on trouvera pas chez Philippe Lacoulaparte un éloge du silence, absolument pas ça. Mais à un moment donné, je m'en souviens très bien dans phrase, puisque malheureusement Lacou, on dit en règle générale maintenant, dans les trucs qui lui sont consacrés. Lacou, il avait des difficultés dans la vie et à plusieurs reprises, il a été dans des maisons de santé, comme ça. Et donc, il fréquentait des gens qui étaient un petit peu... C'est un petit peu comme ces autistes auxquels j'ai fait très brièvement allusion en citant... J'ai cité la phrase, parce qu'elle est tellement magnifique, quoi, de Fernandolini, mais c'est un peu pareil. Et à un moment donné, dans un des derniers, des dernières séquences du livre Phrase, il fait allusion à ces gens qui croisent dans les couloirs ou dans les jardins de je sais pas, Saint-Anne, je crois que c'est à Montpellier, là, dans la région, enfin peu importe, de cet asile dans lequel il est. Et il ne dit pas, c'est eux qui sont la vraie véridiction, parce qu'il ne peut pas dire ça, mais il dit que une véridiction qui ne serait pas au contact de l'extraordinaire incompétence ou maladresse de ces gens, elle serait fausse. Et là, on est vraiment dans des nouages de sens qui sont fondamentaux. Donc le poème en tant que tel, pour Philippe, c'est surtout pas, disons... la poésie à la René Char, encore moins à la poésie qui se relie à des discours de fondation quasi nationaux, genre Neruda ou les poètes du tiers-monde. C'est absolument pas des choses comme ça. C'est véritablement quelque chose qui se retire, avec une proximité quasi, dans son cas, dans le cas de Philippe, et pas dans le mien d'ailleurs, on en a discuté beaucoup, une quasi-proximité à ce qui serait ce qui reste ou ce qui devient du langage dans la prière, pour moi étant qu'il y a une situation de langage impraticable, pour moi.
Moi j'ai...
C'est monsieur là.
Ah, très bien.
Au revoir.
Déjà pour vous dire... très grande qualité de votre intervention, une qualité d'expression qu'on retrouve dans votre œuvre, sans flatterie, c'est une caractéristique. Une conférence qui mériterait d'être lue après avoir été entendue, parce que je pense qu'il y a une grande déperdition, juste par le langage. Mais je voulais en revenir, quand vous parlez de l'essence de la phrase, vous employez le mot impulsion, vous citez Alféri avec l'élan, qui donne une impression de légèreté quelque part, voire d'allégresse dans la naissance de la phrase. Ouais. Et par ailleurs, le dictamen, qui, lui, a une connotation plus lourde, beaucoup plus lourde, et puis d'interrogation, comme si là, dans l'élan, il y a quelque chose de donné que le dictamen pardon, refuse quelque part. Et je voulais savoir comment vous articulez l'un et l'autre.
Ah là là, ça c'est difficile. Je vais essayer de répondre, oui. Ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un petit livre formidable, Chercher une phrase de Pierre Alféri. Pierre Alféri, c'est son deuxième livre, je crois. Et on l'avait publié, ça compte, dans la collection dont je m'occupais avec Philippe Lacoulabarbe. On l'avait publié dans cette collection, ce livre-là. La grande force de ce livre, qui est assez petit, c'est que c'est un livre... un peu technique, au sens comme un mécanicien qui écrit un livre sur le moteur. Là, c'est un écrivain qui écrit un livre sur merde, comment ça marche ce truc. Et il a fait un grand effort, puisqu'il venait d'un milieu plus que cultivé sur le plan philosophique. Il a fait un effort pour. Il n'y a pas une citation, par exemple, dans ce livre. C'est un véritable effort de creusement et d'avancer comme ça. Et dans cet effort et dans ce creusement, il trouve cette idée d'élan, quoi, l'élan. Et moi, bon, évidemment, ayant choisi ce sujet, c'est normal que j'ai relu Chercher une phrase. Et avec cet élan, je l'ai trouvé très proche de ce que j'essaye d'interroger à travers la notion d'intenter telle qu'elle existe chez Benveniste. Qui n'est pas une notion tellement répandue que ça, même dans l'œuvre de Benveniste, en tout cas pas, il me semble, dans les discussions sur le langage, et il me semble que ce mot désigne quelque chose de très précis. Et alors justement, c'est par ce mot d'intenter qu'on pourrait trouver une espèce de correspondance ou de mise en phase entre ce qui viendrait de l'élan et ce qui viendrait du dictamen. Parce que si on met que l'élan serait une chose purement personnelle, induite par, disons, quasiment l'ego, cogito, dont je suis, et en plus je parle, et en plus je le dis, ouais, il y a un côté comme ça, hein, l'élan. Et puis d'un autre côté, il y aurait le dictamen qui serait quelque chose quasiment... mais le dictamen, c'est quand même pas... c'est pas les voix qui parlent pas une voix me parle. C'est même bon, peut-être c'est un peu maladroit d'avoir pris l'exemple de Rousseau d'ailleurs, sauf que l'existence, la présence même du mot dictamen, c'est à Rousseau qu'on la doit, donc c'est pour ça qu'il vient là. Mais c'est un petit peu différent parce qu'il ne s'agit pas tant de langage, il s'agit de, au fond, c'est la loi morale de Kant, pratiquement c'est presque pareil. Et comment rapporter ça à l'élan? Ben, pour moi, je sais pas, c'est pas si problématique que ça. Et ce que j'essaye d'interroger là, c'est ça qui m'a conduit à retrouver le souci fondamental de Philippe Lacoulabarthe, c'est justement en quoi, étrangement, l'élan, en même temps, c'est comme de se souvenir. Et alors là, il y a, de ma part, en tout cas, il n'y a aucune espèce de, disons, de mysticisme, de quelque chose qui reviendrait. Mais en même temps, c'est... excusez-moi, je vous réponds très mal, mais il y a une phrase que je ne l'ai pas utilisée là, parce que elle pouvait m'emmener dans des directions où ce n'était pas nécessaire que moi j'aille, mais... c'est dans un poème de Hölderlin. Dans ce poème, il parle, c'est assez connu d'ailleurs, il parle des Fernhorchen Brunnen, des fontaines qui écoutent au loin. C'est-à-dire que c'est bien connu que le plaisir qu'on a avec les fontaines, c'est le bruit, le tintement, le ruissellement, le bruit du ruissellement. Et lui, il a cette intelligence de dire les fontaines qui écoutent au loin. Et là, on pourrait développer ça abondamment d'ailleurs. Comment une fontaine peut-elle écouter? Évidemment, il s'agit d'une image, mais en même temps, elle est d'une justesse incroyable. Même on pourrait la traiter littéralement, comme moi j'aime bien faire, hein, littéralement sur un plan quasi hydrographique. En effet, la fontaine, c'est aussi l'écoute de la source. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle entend, la fontaine? Elle écoute au loin, mais quoi? Donc elle est le dictamen de l'eau, d'une certaine manière, à ce moment-là, la fontaine. C'est dans ce sens-là, je pense, que ça s'imbrique, si vous voulez, le côté entendu du dictamen et le côté je m'élance du phrasé d'une personne. Et c'est vrai que, par exemple, il y a des métaphores presque un peu stupides de conduite automobile, par exemple. Quand on parle, ça arrive, comme je le fais là, ça arrive qu'on a l'impression qu'on est sans arrêt au bord de Calais. Hein, c'est concret, là, ça parle. On est sans arrêt au bord de Calais, et puis on passe une vitesse, ça va mieux. Et puis des fois... assez rarement, il y a quelque chose qui fait que la parole devient totalement libérée. Et c'est très curieux d'ailleurs, en général, syntaxiquement, elle devient meilleure, moins comme ça. Et là, il y a quelque chose qui est libéré, et c'est pas du tout une voix qui parlerait, mais c'est quelque chose a été retrouvé, quelque chose s'est dénoué, il me semble. C'est pas le cas là.
Moi, j'ai une question un peu innocente. Je me demande pourquoi on retient la phrase comme l'élémentaire du langage.
Hein?
Pourquoi on retient la phrase comme l'élémentaire du langage, comme l'élément? Parce que je vous ai écouté la naissance d'une phrase, de la phrase d'ailleurs. Et je me dis, et bien sûr le phrasé, le dictamen, mais je me dis finalement, comment vous expliquez que ce soit la phrase qui soit presque la synecdote de la langue tout entière ? C'est quand même une question, parce que la phrase, surtout au sens où on l'entend, c'est aussi la phrase, c'est aussi, comment dire, une combinaison.
Là, si vous voulez, ça serait le mérite et le défaut de mon texte, c'est que la phrase, je la prends de façon très, comme un accordéon. Oui. Des fois, il est comme ça, c'est la phrase. Puis des fois, elle est comme ça.
Oui.
Mais ça commence comme ça, d'ailleurs, avec la version donnée par le récit Tupi-Guarani. La phrase, ça va être... Et c'est marrant, parce que la version Tupi-Guarani, elle est assez proche de la Kulaba. La phrase, c'est une phrase. Et une phrase, c'est un être. Une vie, ça va être une phrase. Et c'est uniquement celle-là. Et c'est vrai, d'ailleurs. Et ça s'entend aussi en termes, on peut l'entendre en termes d'existence singulière, une démarche, une forme, une ombre, une forme de vie, qui est celle-là et uniquement celle-là. Et elle s'enclenche dans le monde avec un homme, elle s'enclenche aussi comme parole. Et la phrase, c'est ça. Voilà.
Mais la langue, il dirait, signifiant, par exemple.
Voilà. Mais aussi, bien entendu, je n'arrête pas de chanter, si on peut dire, de cette conception-là, très, très élargie, disons, à une conception beaucoup plus étroite et quasi linguistique, ouais. Où la phrase, c'est la phrase telle qu'on l'apprend à l'école, le chat, l'âpe, le lait, le loup mange l'agneau. C'est des phrases, des bonnes phrases d'ailleurs. Et voilà. Et c'est formidable qu'il y ait les deux. Mais que et la langue ou le langage, puisqu'il s'incarne en chaque langue, c'est ce qui permet le passage continue de l'un à l'autre. C'est ce qui permet à l'individu, disons, de devenir sa propre phrase. Et en fait, je me suis un peu égaré sur les hommes politiques, etc. Mais c'est vrai que non seulement les hommes politiques, mais disons le langage médiatique dans l'ensemble. Ce sont que des phrases, c'est des phrases qui sont faites pour éviter la question du sens. Bon, c'est plus pratique, mais... La phrase...
Finalement, le cri de l'homme face à la paroi...
Ouais.
C'est un début de phrase.
Mais non, mais pour ça, c'est à un moment là, j'étais content parce que c'était dans quand justement si par rapport à la question que je me suis posée en répondant à votre invitation, hein, j'ai choisi ce sujet. Après, bon, évidemment, je vois bien, tiens, je vais relire Al Ferry, tiens, je vais relire des trucs de linguistique, tiens, je vais refréquenter, j'ai relu Humboldt, tout ça. Ça prend du temps, mais c'est bien parce que ça fait une ligne de conduite en même temps. On est sûr que là, on touche à quelque chose d'un peu fondamental. Voilà. Il y a tout ça. Puis à un moment, il faut écrire. Puis à un moment, il faut y aller. Et évidemment, on espère que ça. Eh bien, en règle générale, c'est pas trop comme ça, quoique, un peu, des fois. Mais par rapport à. Et exactement comme ça m'arrive à la seconde, là, on perd, on ne sait plus où on en est. Et on retrouve des choses qui... Et c'est vraiment de l'ordre du tâtonnement. Et c'est vraiment, il y a vraiment une satisfaction quasi physique, comme quand, dans le noir, on touche. Merde. Et ça aide énormément. Et dans le déploiement d'un texte comme ça, disons, il y a des moments où il y a ça. Mais par rapport à ce que vous m'avez posé, j'ai perdu. C'était quoi ?
Non, la question c'était pourquoi la phrase ? Pourquoi c'est l'élémentaire ?
Oui, non, mais depuis.
Et après, le cri.
Ah, le cri, voilà.
Est-ce que le cri, c'est un genre de début
Et justement, dans le développement, quand j'ai développé ça, je n'avais pas prévu du tout d'aborder le cri. Et le cri, mais il n'est pas venu en premier, c'est la berceuse qui est venue en premier. Parce que, justement, et ça, c'est. Parce que comme ça, c'est lié quand même à des réflexions qu'ont fait les anthropologues, etc. C'est. Bon, et c'est lié à ces choses aussi qui sont que les enfants, vous le savez, ils connaissent, ils ont connaissance du langage avant même de naître. Hein. D'ailleurs, pas seulement les hommes, les animaux avec la marque de la voix. Si on parle à un œuf, un gros œuf, j'ai vu ça. Si on parle à un œuf, il se met à bouger. S'il connaît votre voix, il vous reconnaît. À part les œufs qu'on achète au marché, mais dans les couveuses, pour des grues, des animaux comme ça, c'est marrant, on voit le savant, et puis l'œuf, il remue, et puis après, l'oiseau, quand il naît, il sait, il suit. Donc, il y a un truc extraordinairement puissant avec d'ailleurs, j'en parle pas assez, là, l'aspect fondamentalement sonore, quoi. Du langage. Et donc, il y a quelque chose qui est avec le langage qui vient, qui est bon, sémantique, etc. Mais du sens est produit hors cela. C'est vrai qu'on ne connaît pas, on ne sait pas ce que se racontent les oiseaux, on ne sait pas ce que se racontent les éléphants. Il y a des savants qui commencent à. Enfin, il est établi que quelque chose s'échange entre eux, c'est sûr, et qui passe par le son. Et d'une part, et puis d'autre part, il y a la question extraordinairement mystérieuse sur laquelle a travaillé d'ailleurs aussi Philippe Lacoulabarde et qui était même juste à côté de sa question sur le langage, c'est la question de la musique, du musical. Pourquoi on est ému ? Puisque ça ne raconte absolument rien. C'est pas la peine de dire que ça raconte quelque chose. Mais une musique, on va dire qu'elle est joyeuse, l'autre, elle va nous entraîner dans des abîmes de méditation, etc. Et quelque chose se fait, se dit, une puissance incroyable, mais qui ne passe pas, et c'est une banalité de le dire, et puis par les mots. Et il y a des régions de contact. Et la berceuse, c'est une région de contact entre cette puissance émotive du chant, et du chanté en tout cas, et quelque chose. Et au moment où je parle de l'intenté, parce que j'en parle comme de toute petite chose qui est au commencement d'eux, et il y a un intenté de la berceuse qui est très simple, puisqu'il s'agit d'endormir le. En plus, ça marche. Et ça produit quelque chose. Et à l'opposé, on pourrait dire, c'est pour ça que ça m'est venu comme ça, à l'opposé de la berceuse, j'ai immédiatement vu quasiment le contraire, qui est le cri. Et le cri, à la limite, il n'y a même pas le temps d'avoir de l'intenté. Comme ça. Alors là, on est. Où est-ce qu'on est dans l'élan ? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui nous est dicté ? C'est complexe. Mais en tout cas, quelque chose de ce qu'est le langage est prédit par le cri comme par la berceuse. Et si on fait une arche entre quelque chose qui serait de l'ordre d'une communication qui irait dans le sens de la plus grande douceur et d'une expression qui irait dans le sens de la plus grande violence, on a aussi une arche de fonctionnement qui est celle du langage. Voilà. Mais c'est vrai que quand je suis tombé là-dessus, d'une certaine manière, je me suis souvenu de toute une série de choses, y compris je me suis souvenu de formes musicales, notamment africaines, avec des répons que se font les femmes en filant le mille, etc., qui sont liées aussi à des manières de percer, parce qu'elles le font avec le bébé dans le dos. Et puis j'avais lu un livre formidable d'un japonais dont le nom m'échappe sur la façon dont fonctionnait la langue parlée dans, dans certains coins d'Afrique, etc. Et là, c'est compliqué, parce qu'on retrouverait des fonctions qui ont directement à voir avec ce que le poème s'efforce de dégager, quoi, d'une certaine manière. Il y a un insecte.
Oui, c'est ça qui est venu depuis que vous parlez d'animaux.
Oui, oui, si
vous
avez remarqué. Mais c'est qu'un début, après vont venir les autres. Non, justement, non, parce qu'il se trouve que j'ai écrit plusieurs livres sur les animaux, et c'est complètement lié à cette question. C'est-à-dire que ça m'a toujours... je ne dis pas que c'est la base c'est l'étonnement, une sorte d'admiration devant ces formes du vivant. Ce qui m'a poussé à écrire des livres sur les animaux, au fond, c'est j'ai toujours été scandalisé, mais il n'y a pas d'autre mot, par le discours moyen... de l'humanisme qui faisait de l'homme le dépositaire, notamment chez Heidegger, mais il n'est pas le seul, le dépositaire unique, absolu, bon, c'est très fort dans le christianisme aussi, de à lui revient le langage, à lui revient la traduction, à lui revient l'interprétation, à lui revient, etc. Et j'ai toujours trouvé que ce mépris envers les façons dont ces autres que nous travaillent avec la matière phénoménale du monde, je trouve toujours ce mépris désolant. Et d'autant plus désolant qu'il donne du langage une idée complètement fausse, quoi. Le langage, ça devient comme quelque chose qui relèverait d'une conquête. L'homme qui c'est le contraire, pour moi c'est le contraire. Et justement, en essayant de travailler, en essayant de laisser travailler les fictions qu'on peut se faire de l'origine du langage, c'est pour ça que je dis à un moment, c'est né sans fanfare. Évidemment que c'est pas né comme une fanfare. C'est né comme un incroyable peut-être, et puis ça marche. C'est vrai, et pour ça, si on pouvait refaire le film, ça serait assez, assez extraordinaire. Mais en même temps, quand on est devant des animaux qui en effet ne parlent pas, qui en effet n'ont pas accès aux symboliques, etc., jamais je dirais les pauvres. Jamais je dirais les pauvres, parce que justement, ils fonctionnent, ils sont, et ça je l'ai dit dans les livres sur les animaux, ils sont dans un monde qui n'est pas nommé. Et ce monde qui n'est pas nommé, il est tout à fait suggestif pour le langage lui-même. Et justement, je faisais allusion à un moment, là j'en parle pas, mais à Herder, dans son livre sur l'origine du langage, il imagine, alors lui il ne se prive pas de fiction, et il imagine une fiction incroyable, c'est qu'en fait non, c'est pas du tout par les noms que les hommes ont commencé, c'est par les verbes. Mais ce qui est important en même temps, il a une intuition qui est très juste, c'était à l'importance du domaine, du monde des sons, du monde sonore, et il pense que les premiers vocables humains ont été des imitations des sons de la nature. Genre l'orage, brrr, comme ça, on imite l'orage, on imite le son d'un animal, et puis que ça, et qu'en fait, les premiers vocables ont été des verbes. Va savoir, là c'est pareil. Mais ce qui m'a intéressé dans son idée, c'est d'imaginer un monde, à chaque fois ça fait des guides pour la pensée fictionnelle, et d'imaginer un monde que de verbes, où il n'y a pas de substantif. Et brusquement, on se retrouve en phase avec le monde des animaux. Si on met que des verbes non conjugués à l'infinitif, pour ça j'ai écrit un petit texte qui s'appelle « Les animaux conjuguent les verbes en silence », c'est exactement comme ça. Si on met, je ne sais pas, naître, voler, frotter, manger, mourir, épier, suivre, écouter, si on met que des verbes, on a une sensation hyperactive de ce qu'est le vivant. Et c'est vrai qu'il y a dans le nom. Et ça, c'est une autre réflexion qu'il faut avoir. Je me souviens que je dis à un moment la Monument Valley du nom. Les noms, en même temps, blam, ils ne sont pas tous en marbre. Mais quand même, le nom, il est statique. Il a quelque chose de statique. Et c'est parce que les discours comme ça sur le langage humain ont trop institutionnalisé le nom, fait enfin, des sortes de statuts comme ça. Et un nom, c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça que la phrase, elle est bien, parce qu'en général, il y a un nom, verbe et complément. Voilà.
Je sais pas. Chez Herder aussi, c'est l'origine du langage, si ma mémoire est bonne, c'est le chant.
Oui, oui. Bon, ça, c'est chez beaucoup, hein. C'est chez beaucoup, et oui, le chant est bon. Mais sans doute, d'ailleurs, ce que je disais sur la berceuse, etc., c'est à voir avec ça. Mais c'est intéressant si on regarde, alors, dans quelle mesure on peut se servir de l'origine, de l'apparition de l'écriture pour propulser des scénarios sur l'apparition du langage, c'est encore très compliqué, mais du moins, là, l'avantage, c'est que c'est par définition documenté, l'origine de l'écriture. Et c'est marrant de voir que, disons, à Sumer, l'apparition de l'écriture, elle a une origine comptable, c'est-à-dire que ça commence déjà, le délire, mais immédiatement, presque à la même seconde, on pourrait dire que ça chante tout de suite. C'est aussi pour raconter. C'est aussi pour raconter d'où on vient. Donc le déploiement du langage comme l'outil qui va permettre aux hommes de se raconter, il vient en même temps que le fait que c'est vachement plus pratique d'avoir des signes pour au bout de 1000 moutons, on met un signe, c'est mieux que de mettre 1000 points. Voilà. Mais il y a cette origine du comptable, du langage, elle est, du langage écrit, elle est marrante. Elle est avérée. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions? Bon, on va vous remercier infiniment pour cette présentation. Merci beaucoup.
Merci.